podcast un peu particulier que nous vous proposons aujourd'hui puisqu'il s'agit d'un témoignage, celui d'un dessinateur, d'un graphiste, qui a évolué dans les mouvances conspirationnistes les plus influentes mais aussi les plus radicales. Crapaud, c'est sous ce pseudonyme que Clément s'est fait connaître des sphères soralo-dieudonistes. Au cours de cet échange avec Rudi Reichstadt, fondateur de l'Observatoire du conspirationnisme, Clément nous permettra de comprendre comment peut être vécu individuellement cet engagement, tout en portant un regard critique sur cette partie de sa vie. Nous vous souhaitons à tous une bonne écoute.
Bonjour Clément.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter, Clément ?
Oui, alors donc je m'appelle Clément, je vais avoir 30 ans, je suis enseignant. C'est vrai que j'ai fait des dessins au cours de ma jeunesse, on va dire, et puis jusqu'à récemment, je me suis engagée dans différentes causes, et pendant quelques années, en effet, j'ai été proche de ce qu'on a appelé la dissidence, donc je suis sortie, ensuite, voilà, j'ai fait tout un tas de choses dans ma vie, j'ai essayé de laisser ça derrière moi, et puis aujourd'hui, bon, je pense que c'est... Si mon témoignage peut être utile, je pensais que c'était, ça pouvait être important de dire comment j'étais rentré là-dedans et puis aussi comment je m'en suis sorti.
D'accord. Alors, on va reprendre depuis le départ. Le 1er juillet 2020, vous avez publié sur votre compte Twitter, le compte de Crapaud, un thread, c'est-à-dire une succession de tweets, hein, pour ceux qui ne seraient pas familiers de ce réseau social, un thread dans lequel vous essayez d'expliquer comment vous êtes justement retrouvé à faire des dessins pour l'extrême droite, dites-vous. Qu'est-ce qui vous a décidé à rendre tout cela public ?
Alors, ça faisait un petit moment que je réfléchissais à tout ça. Je voyais un petit peu des gens témoigner, je voyais des gens qui prenaient la parole, même s'ils avaient fait des trucs condamnables, des trucs voilà, qui n'allaient pas dans le bon sens, qui osaient un peu prendre la parole. Et souvent, j'apprenais de leurs témoignages. Je me disais, ah oui, ok, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Et je trouvais ça utile. Et donc, je pensais qu'il fallait qu'un jour, ce soit à moi de le faire. J'avais réfléchi un temps à le faire sous forme un petit peu ce qu'on est en train de faire là, sous forme audio, avec un ami qui fait des podcasts. Et puis, bon, je me suis dit que là, c'était le moment ou jamais. Peut-être qu'à l'écrit, c'était plus simple pour essayer de rassembler un petit peu mes idées au départ. Mmh. Et donc, voilà, j'ai fait ce thread dans le but un petit peu de rendre utile ce témoignage, en tout cas.
D'accord. Alors, vous évoquez hein, dans votre thread, vous parlez de votre découverte, en tout cas de votre jonction avec cette mouvance-là à partir de l'année 2013. Est-ce que avant cette date-là, vous étiez proche d'une sphère radicale ? Est-ce que vous aviez milité politiquement dans une organisation pour une cause quelconque ? C'était quoi votre background à l'époque ?
Alors, il est très 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 léger mon background. En fait, j'ai jamais été engagé politiquement ou pour quelque cause que ce soit à ce moment-là. Pour vous dire, alors en 2007, je pouvais pas encore voter, mais je soutenais la campagne de Sarkozy pour faire plaisir plutôt à mon papa. En 2012, je soutenais plutôt Hollande pour faire plaisir à ma maman. Vous voyez, j'étais très influençable d'un point de vue politique. J'avais pas vraiment d'idées à moi. Et ce qui est arrivé surtout à partir, ouais, ce que j'ai commencé à ressentir à partir de l'année 2012-2013, c'est une espèce de ras-le-bol global envers toute la classe politique, cette idée qu'ils soient tous pourris, tous corrompus, etc. C'est ça qui a commencé à émerger à partir de ces années-là. Mais jusque-là, j'avais aucun engagement politique. J'étais même assez nul de ce côté-là, je crois qu'on peut le dire.
D'accord. Mais alors, en 2013, vous commencez à fréquenter ces gens-là ou bien simplement vous communiquez avec eux par écran interposé ou bien, enfin, comment on se retrouve à faire des dessins pour Dieudonné ou pour les proches de Dieudonné? Comment on retrouve ces dessins ensuite dans la lettre hebdomadaire d'Égalité et Réconciliation, le site d'Alain Soral, etc. Allez-y.
Au début, c'est tout bête. Je tombe sur les spectacles de Dieudonné. Je tombe sur des anciens spectacles. Je ris beaucoup. J'apprécie l'humoriste, le jeu d'acteur, l'écriture, etc. Donc je me replonge dans tous les spectacles que j'avais pas vu avant, parce que avant ça je pensais que voilà, Dieudonné était pas très drôle, je le connaissais pas. Donc voilà, je suis tombé là-dedans, et puis en regardant les sketchs petit à petit, mine de rien, ça imprime un petit peu certaines idées, donc justement le fait qu'ils soient tous pourris, le fait que voilà, sur certains sujets, certaines thématiques. Après, ben, il va arriver toute la période, à partir de 2013-2014, toute la période avec Manuel Valls, qui est Premier ministre, et toute la partie de, comment dire, d'antagonisme très fort dans les médias contre Dieudonné. Et ça va renforcer finalement, jusque-là, j'écoutais juste les spectacles, etc. Et ça va renforcer une sorte d'adhésion, ça va renforcer chez moi le fait de le voir en tant que victime. Et du coup, ben, d'adhérer à certaines de ses thèses, d'essayer de le soutenir. Et c'est ce qui va me pousser à faire le premier dessin qui, au début, je publie sur une page que j'ai créée que pour ça et sur Facebook. Et voilà, c'est purement, comment dire, c'est une initiative personnelle. J'ai été forcé par personne. Je pensais faire bien en le soutenant. J'avais l'impression qu'il était ouais, le sujet d'une censure qui était injuste.
Et il consistait en quoi, ce premier dessin?
J'ai du mal à me rappeler, mais je pense que c'était un truc en rapport avec peut-être avec la quenelle, avec je crois la révolution de la quenelle ou quelque chose comme ça. Ça devait être un dessin, juste peut-être un portrait de Dieudonné ou quelque chose comme ça. C'était pas fou, hein. Je dessinais juste crayon feuille. C'était, ça avait rien de dingue, mais je me souviens plus exactement ce que c'était le premier. Mais c'était juste un soutien à Dieudonné, quoi.
D'accord. Mais alors, en 2013, ça fait quand même plusieurs années que Dieudonné a noué des liens avec les mouvements ségationnistes, plusieurs années qu'il a été condamné à plusieurs reprises. Il a fait monter Robert Faurisson sur scène. En 2012, il a réalisé un film intitulé L'Antisémite, avec Soral et Faurisson, d'ailleurs. Tout ça était public. Je veux dire, pour le savoir, il suffisait d'avoir une connexion Internet.
Ouais.
Et pourtant, ça ne vous a pas dissuadé, ça ne vous a pas effrayé, vous êtes quand même rapproché. Alors, comment vous expliquez ça?
Alors, je pense qu'il y avait un espèce de biais, c'est-à-dire que, oui, il y avait ça. Une partie de mon cerveau se disait, oui, mais quand même, Faurisson sur scène. Et en même temps, j'essayais de me convaincre que c'était de la pure provocation. C'est-à-dire que, il soutenait pas ses idées, qu'il faisait ça simplement pour, je sais pas, ennuyer le pouvoir, pour faire parler de lui, pour un peu susciter une des réactions. Et voilà, j'essayais de me convaincre que c'était ça, qu'il n'était pas vraiment antisémite, que c'était une sorte d'anathème qu'on lui jetait pour le discréditer sur plein d'autres aspects. Et donc j'étais convaincu de ça, c'est-à-dire que on me disait, et j'avais accès, parce que je cherchais des infos, j'avais accès à ça, à ces condamnations. Alors le film L'Antisémite, je l'ai vu que plus tard, qui est très mauvais d'ailleurs, mais je l'ai vu que plus tard. Et à ce moment-là, ouais, je me dis, c'est de la provocation, il n'y croit pas vraiment. C'est un truc qui revient souvent, hein, même son sketch sur, donc pas avec Faurisson, mais son sketch sur Faurisson, son ami Robert, là, il y avait, à ce moment-là, on était nombreux à penser que en fait, il faisait ce sketch, mais pour se moquer de la personne qui nie tout, qui nie la réalité, qui nie ce qu'il a en face de lui. Et c'était une lecture qui, à mon avis, maintenant, avec les yeux, avec le regard que j'en ai aujourd'hui, n'était pas correcte, parce que je pense qu'il a toujours été convaincu de ces idées-là. Et en fait, il faisait passer sous couvert de l'humour ce genre de propos. Mais voilà, à l'époque, j'étais pas le seul. Moi et d'autres pensions que voilà, il se servait de l'humour pour provoquer et en même temps pour critiquer, mais c'était un peu flou, quoi, dans ma tête.
Bah alors, par exemple, vous faites un dessin que vous co-signez avec Zéon, qui est l'un des protagonistes de cette mouvance, qui a reçu un prix d'un concours iranien sur les caricatures sur le thème de l'Holocauste, et vous co-signez un dessin qui s'appelle « Les trois grandes religions monothéistes ». Alors, je vais le décrire. Hein, vous avez le christianisme qui est symbolisé par une cathédrale, l'islam par une mosquée, et en dessous, à la place du judaïsme, on a la mention Holocauste, donc référence à la religion de l'Holocauste, hein, qui est un thème négationniste très, très souvent traité. Et au lieu de trouver une synagogue, on a ce qui s'apparente à une chambre à gaz, avec un panneau qui dit entrée payante et visite guidée. Et à ce moment-là, au-delà de l'inconscience par rapport à l'illusion que vous pouvez nourrir sur Dieudonné et ses intentions, qu'est-ce que vous avez dans la tête au moment où vous vous apposez votre signature sous ce dessin?
Alors, il faut que je remette un tout petit peu comment j'en suis arrivé là, parce que là, on est parti des dessins juste soutien à Dieudonné et on arrive
Oui.
je pense, au pire de ce que j'ai pu faire comme dessin.
D'accord.
En fait, donc petit à petit, il y a eu, j'étais pas du tout sensible à cette cause-là, il y a eu, grâce, enfin, à cause, on va dire, ou grâce au sketch de Dieudonné, au spectacle, la cause palestinienne qui est venue. Donc au début, j'étais simplement dans voilà, défense de, on va dire, du peuple palestinien, etc., respect de ses droits, résolution de l'ONU, etc. Et puis, petit à petit, ça s'est transformé en une sorte d'antisionisme qui était plutôt ben, lutter contre les colonies, lutter contre l'implantation de, voilà, sur de nouveaux territoires, etc. Puis après, c'est plutôt allé sur, finalement, c'était un territoire qui appartenait aux Palestiniens, ce serait très bien qu'il n'y ait pas du tout d'État juif. Et petit à petit, cet antisionisme, alors moi, je pense pas avoir été traversé par des idées antisémites, même si je suis tout à fait conscient que j'ai nourri ces propos et en faisant ces dessins-là, évidemment, mais j'avais jamais conscience d'avoir ce genre de pensée-là. J'avais rien contre ni les juifs, ni le judaïsme en l'occurrence, mais petit à petit, ça m'a aussi rapproché des thèses révisionnistes, des thèses négationnistes, pour le coup. Donc j'ai regardé le fameux documentaire de Blanc-Rue sur Faurisson, j'ai regardé ce genre de trucs. J'étais pas convaincu. Voilà, j'entendais une partie des choses et d'un autre côté, je me disais qu'il y avait des trucs louches, bizarres, qui collaient pas à ce que je savais par ailleurs. Donc j'ai jamais été particulièrement convaincu, mais ça faisait partie de toute cette idée que j'avais à ce moment-là du un peu, voyez, le lobby juif qui gouverne un petit peu, qui contrôle un petit peu la politique même en France et qui impose on va dire le silence, le fait de se taire sur ce qui se passe en Israël à cause de, par exemple, de la Shoah. Et du coup, c'est comme ça que je suis venu à. Alors, je ne remettais pas en cause le génocide, mais c'était plutôt le truc de dire que c'était devenu une religion à laquelle il fallait se prosterner, il fallait accepter tout ce qu'on nous avançait pour. Ouais, pour cette idée de un peu de soumission et d'accepter l'inacceptable, voilà, c'était plutôt ça dans ma tête, ce qui est de toute façon de la rhétorique négationniste, j'en suis conscient aujourd'hui, mais c'était plutôt par cette entrée-là, vous voyez, par cette porte-là, je ne suis pas arrivé par la porte du en fait, ils n'ont pas du tout tué 6 millions de personnes, c'est par l'autre porte que je suis arrivé, quoi, plutôt le côté antisioniste, quoi.
Et vous êtes, est-ce que depuis vous êtes documenté, est-ce que ça vous a fait un travail sur ce sujet-là ou c'est quelque chose simplement que vous avez abandonné et aujourd'hui ça vous paraît un peu loufoque ou en tout cas très contestable et
Par exemple, ce que peut
oui,
produire Faurisson?
oui, par exemple.
Honnêtement, enfin, je suis tellement convaincu que, comment dire, que tout ça est une sorte de supercherie, que ce personnage-là est finalement a eu cette aura à cause des intentions, enfin pas des intentions, mais que ça a arrangé plein de monde autour, voilà, les Soraliens par exemple, tout ça, ça a finalement trouvé dans les travaux de ce type-là des raisons d'exister, de propager leur thèse, que je me dis que enfin, ça n'a pas grand intérêt, je sais pas si. Peut-être que j'ai tort, mais je me lancerai pas
D'accord.
dans un debunk de ce truc-là, parce que je pense que c'est un peu ridicule, quoi, j'ai un peu honte d'avoir même accordé du crédit à ce genre de choses, quoi.
Alors, vous avez aussi fait des dessins où on a Laurent Fabius, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères, qui est présenté comme le vampire du Quai d'Orsay,
Ouais.
qui est affublé d'une étoile de David, Manuel Valls aussi, un
Ouais.
drapeau israélien, parfois un symbole maçonnique aussi. Est-ce que vous aviez conscience, mais de l'impact que ça pouvait avoir à un moment où en France, par exemple, on assassinait des juifs au seul motif qu'ils étaient juifs? Et je pense à la mort d'Ilan Halimi en 2006, je pense au massacre de l'école juive de Toulouse par Mohamed Merah en 2012. Est-ce que vous en aviez conscience? Est-ce que vous en avez pris conscience depuis? Enfin voilà.
À ce moment-là, j'en ai pas conscience du tout.
Vous faites
À
ça
ce
le lien,
moment,
en fait.
non, pas du tout. À ce moment-là, comment dire, quand je vais affubler ce genre d'hommes politiques ou de personnages avec ces symboles juifs, israéliens, etc. L'idée, c'est toujours dans cette optique d'un lobby qui aurait mainmise sur le pouvoir, etc. C'est pas, vous voyez, je Par exemple, je sais que certains dessinateurs le faisaient chez Égalité et Réconciliation, etc. Des choses très. Vous voyez, un peu les caricatures comme on pouvait voir dans les années 30 sur le juif, sur les choses comme ça. Moi, c'était plutôt axé sur ce jeu de pouvoir entre Israël et la France. Et j'avais pas notion, j'avais pas conscience que ça nourrissait en fait le discours antisémite, puisque c'est voilà, ça c'est la rhétorique classique qui prête aux personnes juives beaucoup de pouvoir ou une influence ou beaucoup d'argent, etc. Et oui, maintenant j'en ai conscience aujourd'hui que c'était pétri de ce genre d'idéologie. Mais sur le moment, voilà, quand je mettais l'étoile de David sur Manuel Valls, pour moi, c'était juste dire il a un sentiment d'allégeance et d'appartenance, comme il l'avait dit lui-même en vidéo, à l'État d'Israël, il se sent attaché à l'État d'Israël. Pour moi, c'était juste ça. Et c'était pas plus. Et je ne pensais pas que ça pouvait être interprété différemment. Mais maintenant, je le comprends aujourd'hui, évidemment.
Alors, il n'y a pas que, d'ailleurs, la question de l'antisémitisme, de l'antimaçonnisme, il y a aussi d'autres types, d'autres théories du complot, par exemple Dieudonné, que vous présentez un peu comme un nouveau Coluche
Ah oui.
et que pour certains, que certains seraient prêts à éliminer physiquement, hein, puisqu'il y a une théorie du complot qui affirme que Coluche était victime d'un assassinat maquillé en accident de moto. Et donc, il y a cette idée-là qui est traitée dans un de vos dessins. Il y a un autre dessin avec une carte d'identité d'un des terroristes des attentats contre Charlie Hebdo de janvier 2015, carte d'identité qui est laissée sur le pare-brise de la voiture, avec l'idée que derrière, il y a quand même l'idée d'un coup monté, quoi, hein, d'un vaste complot d'État. Ce complotisme-là, c'était vraiment, comment dire, le filtre par lequel vous lisiez à l'époque l'actualité?
Ouais, complètement. En
Ouais.
fait, par exemple pour le complot sur Coluche, moi j'ai grandi dans les années 90. J'étais abreuvé des émissions de Hardisson, de plus tard de Ruquier, etc. Et ça, ce genre, par exemple, le complot sur Coluche, je l'ai entendu dans des émissions
Ouais.
voilà, à la télé, heure de grande écoute, etc. Par des gens qui n'ont pas été discrédités depuis sur tout un tas de choses. Donc pour moi, je l'avais un peu. Je l'avais un peu intégré, ça, le fait que pour moi c'était acté que Coluche avait été assassiné, on va dire. Et quand il y avait justement toute cette confrontation politique et ce combat entre Dieudonné et le pouvoir en place, voilà, je me suis dit peut-être que ça pourrait en arriver là. Mais pour moi, comment dire, c'est ridicule hein, aujourd'hui, mais je pensais vraiment que ça pouvait arriver, quoi. C'était une sorte de. De croyance que le pire pouvait se passer et que surtout que ça pouvait avoir une quelconque logique. Et pour les attentats de Charlie Hebdo, donc je fais ce dessin où il y a vous savez, c'était le truc. Je suis passé aussi par le complotisme sur le 11 septembre, le coup de retrouver toujours les cartes d'identité, les passeports sur place. Et donc, quand on a su que dans la voiture, c'était les frères Kouachi, il me semble.
Oui, c'est ça.
Ouais, on avait retrouvé la carte d'identité. Je me suis dit, c'est trop gros. Voilà, on nous dit pas tout, quoi. Voilà, c'est vraiment le truc complot de base. Et donc, oui, je mets cette carte d'identité en disant, ben voilà, qu'elle a été laissée presque intentionnellement, sans remettre en cause le. Enfin, dans mon esprit, encore une fois, je remettais pas forcément en cause le fait que eux soient impliqués et que il y ait des terroristes islamistes, etc., que ça puisse aller jusque-là. Mais pour moi, il y avait. Vous voyez, il y a toujours toute une nuance et une palette dans le complotisme. Pour moi, il y avait une sorte de laisser-faire, de laisser. Ça arrangeait bien un peu tout le monde. Voilà, c'était un peu ça, quoi.
Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à quelqu'un qui tomberait sur ce dessin, qui serait convaincu que donc c'est un coup monté? Vous lui diriez quoi aujourd'hui avec vos arguments? Quelqu'un qui dirait, bah oui, c'est un complot, regardez la carte d'identité.
Ouais, alors je dirais déjà que les dessins que je pouvais faire à l'époque. J'en ferai plus aujourd'hui parce que, pas forcément sur ce thème-là, hein, je veux dire, mais des dessins comme ça, parce qu'en fait, ça parle énormément, on va dire, à notre. Ça parle pas à notre. À nos, ça parle à nos émotions, voilà, ça parle à notre. Directement, on va voir, ah mais oui, c'est bien sûr, mais en fait, ça peut être très très bête et méchant, un dessin comme ça. Et c'est très difficile d'avoir un propos qui est nuancé, qui amène une certaine réflexion. La plupart du temps, ça va juste être là pour soit choquer, soit voilà, faire réagir. Et. Alors, il y a des dessins de presse qui restent très bons, je ne critique pas du tout, mais je pense que pour parler de ces sujets-là, c'est parfois difficile de pas cliver, hein, on le voit avec même de grands dessinateurs qui, sur certains sujets, font un peu n'importe quoi. Donc déjà, sur les dessins en eux-mêmes, je conseillerais d'avoir un recul un petit peu plus important et pas prendre pour argent comptant ce qui peut être représenté par un dessin. Et après, sur ce dessin-là, ben, voilà, je veux dire, c'est assez n'importe quoi, parce que c'était le même cas pour le passeport dans le 11 septembre. Enfin, on ne peut pas se baser sur cet élément-là qui, certes, peut paraître être une coïncidence, paraître être assez incroyable, qu'on retrouve dans les décombres, etc. Mais finalement, pourquoi ça n'arriverait pas et en quoi ça invalide tout le reste des faits qu'on a? C'est ça, je veux dire, c'est occulter, c'est prendre un fait qui peut paraître comme voilà un petit peu étonnant ou et en même temps sur le cas des terrorismes islamistes on sait très bien que ils ont un besoin aussi de cette revendication de qu'on sache que c'est eux que leur nom soit connu c'est aussi ça fait aussi partie de leur mode opératoire et donc ça paraît pas totalement illogique de laisser sa carte d'identité pour que tout de suite on puisse les retrouver et parler et qu'ils soient présentés comme des martyrs pour certains d'entre eux. Donc voilà, à ce moment-là, j'en ai pas conscience. À ce moment-là, pour moi, ça fait partie d'une sorte de manipulation globale et d'une propagande d'État. Mais aujourd'hui, je dirais, faites attention avec tous les dessins et ce genre de dessins en particulier.
Oui, alors juste en incise, parce que ça risque de nous être reproché si on ne le précise pas, le passeport d'un des terroristes du 11 septembre n'a pas été retrouvé à proprement parler dans les décombres des tours, mais en fait dans les débris qui ont été expulsés par le crash des avions et ramassés par un passant, confiés à un agent de police de la police de New York avant l'effondrement des deux tours. Et effectivement, ça peut paraître tout à fait incroyable, mais jusqu'à preuve du contraire, ça s'est bien passé comme ça. Et en réalité, on ne sait pas pourquoi l'un des frères Kouachi a laissé son sac avec une carte d'identité dans la voiture qu'ils ont abandonnée par la suite. Voilà. Et donc, c'est souvent, en fait, face au complotisme, souvent d'humilité dont il faut faire preuve, parce qu'en réalité, il y a des questions pour lesquelles on n'aura jamais de réponse. L'un des thèmes les plus présents dans vos dessins, c'est celui de la démocratie également. Et la démocratie dans une version qu'on pourrait qualifier de chouardienne. Vous faites plusieurs dessins tout au long de ces années, reprenant d'ailleurs des propos d'Étienne Chouard, expliquant que nous ne vivons pas réellement en démocratie, faisant la promotion des ateliers constituants. Est-ce que vous avez participé à ce genre d'atelier constituant?
Oui, ouais, ça m'est
Oui,
arrivé.
une fois, plusieurs fois.
Ça m'est arrivé une fois, je dirais, et après j'en ai fait un petit peu autour de moi avec des amis, de la famille, des choses comme ça.
Et alors, quelle a été votre expérience? Vous en tirez quoi? Et peut-être pour le meilleur d'abord, pour le pire ou pas? Est-ce que vous gardez un bon souvenir de tout ça? Est-ce que, enfin voilà.
Ça fait partie, je pense, peut-être des seuls aspects positifs de ce passage-là au milieu de l'extrême droite. C'est le fait d'avoir ouvert certaines portes vers d'autres choses qui m'ont permis justement d'en sortir. Donc, quand je suivais Égalité et Réconciliation, etc., c'était une sorte de site d'information, hein, même si c'est pas l'information à proprement parler, mais c'est là que je prenais mes nouvelles et que je m'informais. Donc, je suis
Ça
tombé sur
fait,
les vies. Ouais.
excusez-moi, juste entre parenthèses, tous les jours vous connectiez à Égalité et Réconciliation et c'est comme ça que vous vous informiez.
Oui. Ouais.
Vous n'alliez pas, par exemple, sur Google Actualité, Yahoo Actualité, sur le site du
Non.
Monde, ou, non, vous passiez directement à Égalité et Réconciliation.
Ouais, parce que pour moi, à ce moment-là, les médias sont pour la plupart corrompus, quoi. Les nouvelles vont être déformées, vont être présentées sous un jour qui va arranger le pouvoir, etc. Et donc pour moi, il n'y a pas de vraie information autre que celle-là, quoi.
Et donc, c'est par Égalité et Réconciliation que vous découvrez Chouard, Étienne Chouard.
Voilà, exactement. Donc du coup, à ce moment-là, je me pose quelques questions sur tout ça. Je découvre les vidéos d'Étienne Chouard. Et donc je me plonge sur cet aspect de la démocratie. Alors pour le coup, quand j'écoutais Soral, j'avais jamais lu un bouquin parce que Soral a la prétention d'avoir fait lire énormément de gens. Il dit qu'il a remis à la lecture beaucoup de gens. En fait, globalement, comment dire, il mâche le travail et il nous fait croire, il nous fait entendre, il nous fait croire qu'on sait, qu'on a lu des livres parce qu'il les résume ou il en dit ce qu'il croit en avoir compris. Et en fait, la plupart du temps, on lit rien du tout, on va lire les deux, trois bouquins édités chez Contre-Culture, mais c'est rien de bien fou. Mais par contre, en ayant relayé les travaux d'Étienne Chouard, là, ça m'a intéressé. Et du coup, je suis allé voir un petit peu son travail sur son blog. Je suis allé lire un petit peu les auteurs qui recommandaient sur la démocratie, par exemple athénienne, sur les expériences démocratiques chez les Amérindiens, etc. Et en me plongeant de plus en plus de ce côté-là, en lisant aussi, par exemple, ce que peut faire le monde diplomatique, ce que peut faire Bernard Friot, Frédéric Lordon, etc. Du coup, j'ai commencé à raisonner un peu plus par moi-même et surtout à avoir un petit peu la contradiction par rapport aux thèses de l'extrême droite. Je me dis, mais comment c'est possible que ce gars-là soit relayé chez Soral? Parce que, en fait, quand je le lis, quand je lis ce que disent ses amis, ça colle pas trop. Et en même temps, j'apprenais de plus en plus parce que, du coup, ça m'a aussi ouvert sur Bourdieu, sur pas mal de gens. Et je me dis, mais c'est bizarre. Et du coup, je comprenais, un petit peu, je me formais intellectuellement, quoi. Et donc, je regrette pas. Après, voilà, Chouard, il y a la polémique actuelle et le silence, son silence à la question du média de Denis Robert. Je comprends pas. Je sais pas pourquoi. Je le pense encore profondément naïf. J'espère qu'il en est pas à défendre des thèses révisionnistes. Je pense pas. Mais maintenant, voilà, j'ai pris mes distances avec tout ça. Je le défends plus. De manière, voilà, je vais pas faire des dessins pour défendre ça. Maintenant, je vais pas l'accabler parce que je pense pas que ce soit un... J'espère en tout cas que c'est pas forcément un mauvais bougre. Après, je sais pas trop pourquoi
Mais
il dit ça.
la vision de la démocratie qui est véhiculée là,
Ouais.
elle vous paraît, comment dire, elle vous paraît pas problématique, hein, l'idée que on est dans une fausse démocratie, une démocratie d'apparence, que qu'en réalité tout ça ne compte, enfin comment dire, que liberté publique, le pluralisme de la presse, etc. ne compte pas, que tout ça est une sorte de théâtre d'ombre. Je sais pas,
Alors,
ça.
si, ça, alors, c'est pas du tout comme ça que je le vois aujourd'hui. Avant, ça pouvait être un des arguments que j'aurais pu utiliser. C'est plus le cas. Le truc, c'est que je peux pas jeter. Comment dire? Ça fait partie des personnes qui m'ont un petit peu permis, justement, de me sortir des thèses d'extrême droite et de cette mouvance-là, de m'avoir raccroché avec plutôt des idées de gauche, des idées progressistes. Et sur le. Je ne suis pas d'accord sur le fait qu'il n'y ait pas de pluralisme dans les médias. Je suis abonné au Diplo et je lis des trucs très bien sur Arrêt sur Image et sur d'autres sites. Je pense aussi que Chouard dit ça, que voilà, on peut entendre tout un tas de voix. Maintenant, sur le système politique dans lequel on vit, là, il y aurait des choses à dire. Je ne suis pas assez calé là-dessus. Je suis pas, voilà, j'ai pas fait d'études de politique. Même au niveau constitutionnel, voilà, j'ai essayé d'écrire quelques articles de constitution. Il y a quelques idées qui me tiennent à cœur là-dessus, mais je peux pas me prétendre savoir qu'est-ce qui serait bien comme régime politique en France. Mais l'idée que les citoyens puissent être un petit peu plus impliqués dans tout ça me semble être une bonne chose. Après, voilà, je vous dis, c'est pas mon. Je fais pas une prière devant la photo d'Étienne Chouard tous les soirs. Voilà, je peux pas le blâmer. J'espère juste que ce qu'on lui reproche sur ses thèses révisionnistes et négationnistes, ce soit purement qu'un malentendu et qu'il soit complètement naïf. Je pense qu'il l'est un peu sur la ligne de Chomsky, l'idée de laisser la place à ça. Alors, je sais pas si c'est la bonne chose. Je sais pas s'il faut que, comme il le dit, faire un petit peu la représentation des conflits, de permettre à ces deux thèses de s'exprimer. Je ne sais pas si c'est la bonne idée, j'en suis pas sûr aujourd'hui, mais je pense
La
que c'est
question
une
de
idée.
savoir si c'est vrai, si on a vraiment affaire à deux thèses, en fait.
Oui, alors voilà. Oui, non, c'est pas une thèse, c'est une. Allez, mais c'est même pas une théorie, c'est un propos, un discours, quoi. Voilà, c'est plutôt ça. Mais c'est vrai que c'est pas une thèse au sens propre. Ouais.
Ah, vous faites un dessin aussi pour le site La Vraie Démocratie. En février 2016, vous réalisez une affiche pour une conférence organisée par Agence Infolib, qui est un site complotiste. Est-ce que là aussi, vous avez maintenu contact pendant quelque temps encore après
Pas du tout.
avec, pas du tout, c'est one shot, vous faites un dessin pour eux et.
Non, en fait, on avait des contacts avant.
Oui.
À ce moment-là, c'était un des petits médias de cette dissidence, etc. Et puis, on a eu, j'ai fait cette affiche pour les aider. C'est toujours tout ça, c'est tout bénévole, hein, évidemment. Et je me rappelle d'une conversation qu'on avait eue. Ils avaient eu besoin de mon avis parce que j'avais quand même à ce moment-là une formation scientifique. Ils avaient besoin de mon avis sur, je crois que c'était sur le pétrole. Et en fait, ils m'ont dit qu'ils ne croyaient pas à l'origine, ça va être un peu peut-être flou, mais à l'origine biotique du pétrole, c'est-à-dire que pour eux, le pétrole n'était pas forcément fait par des dépôts marins de
Carbone.
voilà, exactement, donc d'origine animale ou végétale. Et pour eux, c'était simplement, ça apparaissait comme ça, d'un point de vue totalement minéral, dans les roches. Et donc, ça. L'idée derrière ce complot, c'était de venir démonter l'idée qu'on allait manquer de pétrole un jour, parce qu'en fait, il y a du pétrole partout, pas forcément dans des conditions de dépôt comme ça. Et donc moi, vu que ça, je l'avais travaillé pour le coup à l'université, j'ai essayé de leur expliquer ça, ça s'est pas trop passé, et je me suis dit, mais en fait, si sur ce sujet-là, ils sont aussi à l'ouest, j'ai envie de dire, ben, en fait, pour le reste, là où j'ai pas moi de connaissances, peut-être que c'est pareil, et c'est comme ça que j'ai pris mes distances avec ce genre de personnes, mais avec d'autres personnes, ouais, de cette mouvance-là, ouais.
Alors, vous parlez de bénévolat, il y a une histoire que vous racontez, alors, ou bien dans le trade, ou bien dans une discussion qu'on a eue préalablement, par rapport à un dessin que vous avez fait pour une affiche d'un spectacle de Dieudonné, et qui devait être rémunéré au départ, et qui finalement ne l'a pas été.
Alors,
vous pouvez
elle a
revenir
été.
Là-dessus.
Elle l'a été au final. Dieudonné, quand il a lancé un spectacle, c'était La Bête immonde à ce moment-là. Il a d'abord proposé, enfin, il avait finalisé une affiche en plagiant un illustrateur sans lui demander son avis. C'était une espèce de créature, où il avait un peu calqué son visage dessus. Donc son affiche a été, il l'a supprimée par rapport au tollé que ça avait provoqué. Et du coup, il a lancé un concours. C'est ce que les gens font beaucoup pour ne pas avoir à payer des graphistes. Ils lancent un concours comme ça, ils ont 2000 suggestions qui arrivent et après ils choisissent la meilleure et ça leur coûte rien. Donc voilà, ils lancent un concours d'affiches. Et moi, je m'y attelle, je fais une affiche, donc j'essaye de faire ça. Et il promet une récompense, je ne sais plus, je crois que c'était 500, 1000 euros, je ne sais plus exactement, mais une récompense. Et donc moi je m'attelle à faire cette affiche-là qui est sélectionnée. C'est la femme de Dieudonné qui me contacte pour me féliciter, pour me dire que j'avais gagné, qui me met en contact avec leur imprimeur.
C'est Noémie Montagne, hein, c'est ça?
C'est ça. Qui me met en contact avec l'imprimeur, j'envoie les fichiers, etc. Et je me fais conseiller par des amis qui sont dans le milieu de l'illustration. Je fais quand même un petit contrat en fait pour les quand on fait une image, quand on fait une illustration, il faut l'accompagner d'un contrat qui précise comment est-ce que l'illustration peut être réutilisée, est-ce qu'elle peut être modifiée, est-ce qu'elle peut être vous voyez ce que je veux dire, une sorte de sur les droits d'auteur quoi. Et donc je précise sur le contrat que l'image ne doit pas être modifiée et ne peut être utilisée que dans ce but-là. À ce moment-là, j'ai un peu des doutes déjà sur la dissidence, je lui donne pas ma vraie adresse non plus, je lui donne pas mon nom, et je me méfie un petit peu de cette sphère-là. L'affiche est utilisée, ils en font la promotion partout avec, et puis quelques... Alors, pour l'aspect financier, c'est anecdotique, mais ça me sera donné en liquide sur un spectacle. Ils me font venir à un zénith et je passe à la boutique, et là, il y a quelqu'un de leur staff qui me sort de la caisse des billets de 50. En fait, ils en avaient... Enfin, c'était incroyable, le nombre de t-shirts et de produits dérivés qu'ils vendaient, c'était assez incroyable. Et donc, ils me donnent ça, sous la main. Et pour la petite histoire, mon illustration, elle va être réutilisée pour faire des porte-clés, pour faire tout un tas de choses, d'un jeu vidéo, tout ça. Vous voyez, c'est le petit... l'illustration que j'ai faite, c'est le petit cyclope Dieudonné, là, un peu de façon mignon, là. Et voilà, et ça m'a jamais été ni. J'ai jamais été ni informé, ni évidemment mis au courant de tout ça. Alors, c'est pas du tout ça qui m'a fait quitter cette sphère-là, pas du tout, parce que j'ai continué à le défendre malgré tout ça. Je me disais qu'il avait des problèmes d'argent, qu'il était sous le coup de plusieurs mandats, perquisitions, etc. Et je me disais qu'il avait bien raison d'utiliser ça si ça pouvait lui apporter de l'argent et des finances et lui permettre de continuer son travail. Mais maintenant, avec mon regard de maintenant, je me rends compte qu'en fait, voilà, ils ont bien utilisé mon travail à leur fin. Et ce qu'ils font avec tout le monde, globalement, je crois qu'à peu près tous les gens qui ont approché ces gens-là ont la même, on raconte la même chose.
Alors à l'époque, vous faites des dessins, pas beaucoup, mais vous en faites sur la Syrie, sur l'Ukraine. Qu'est-ce que vous savez à l'époque de la situation de ces pays-là, de ce qui s'y passait? Encore une fois, vous continuiez à vous informer à partir d'Égalité et Réconciliation, par exemple, ou... D'accord.
En fait, j'en sais absolument rien. J'écoute ce que disent les gens qui sont relayés sur Égalité et Réconciliation. À ce moment-là, c'est comment dire, Soral s'est pas encore mis à dos tout le monde, donc il relaie encore. Je crois qu'il passe du Michel Collomb encore sur Égalité et Réconciliation. Il doit passer du. Enfin voilà, il y a quelques autres voix
Ou Olivier
autres que.
Berruyer.
Oui, peut-être, voilà, il doit y avoir des choses comme ça, et voilà, enfin bref, je pense, c'est le gros problème à ce moment-là, c'est que je suis dans une illusion de la connaissance, c'est-à-dire je pense être informé, je pense être plus conscient des réalités du monde que les autres, et c'est pour ça que je me permets de faire des dessins. Et aujourd'hui, je trouve cette démarche totalement, c'est obscène, quoi, c'est-à-dire que en fait, je savais rien, en fait, j'étais totalement ignorant, et même plus qu'ignorant, j'étais. Je me suis
Ignorant votre
le
ignorance.
oui et le peu que je savais c'était soit des choses fausses soit des choses qui étaient complètement déformées tronquées etc mais pour moi j'avais une partie de la vérité et donc je me permettais de faire des dessins sur la Libye la Syrie l'Ukraine voilà il y en a peut-être que j'ai oublié mais voilà c'est dramatique aujourd'hui dans tous les sujets que je peux aborder, que ce soit d'un point de vue professionnel ou dans mes engagements, etc., militants, je fais bien attention à m'imposer des limites et à ne parler que des choses que je sais à peu près, des choses que j'ai à peu près étudiées correctement. Et je regrette vraiment d'avoir fait des dessins sur des sujets qui me dépassaient totalement et qui me dépassent encore, hein, parce que je prétends pas du tout savoir aujourd'hui tout ce qui se passe en Ukraine, en Syrie et autres.
Alors, dans le même temps, vous commencez à vous intéresser, en tout cas ça se voit à travers vos dessins, à la cause animale. Est-ce que ça a un rapport avec ce passage-là dans la dissidence ou aucun?
Alors, ça a un rapport dans le sens où j'ai rencontré des personnes par ce biais-là qui ont un petit peu nourri mes réflexions, qui m'ont amené à changer mon régime alimentaire, ma façon de voir les choses, etc. Donc, oui, ça a un lien assez indirect. Après, le fait est que Soral, sur les questions de cause animale, sur les questions de véganisme, etc., et totalement ignorant et très violent, était, en tout cas, je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il en est, mais en tout cas, à ce moment-là, était très violent envers ces sujets-là. Et ça ne m'empêchait pas de pourtant continuer à le suivre. Je me disais que, voilà, il ne savait pas là-dessus, il n'était pas trop renseigné sur ce sujet-là, mais que, qui sait, après une longue discussion avec lui, peut-être qu'il pourrait changer d'avis. Voilà, j'étais vraiment naïf de ce côté-là. Et je me disais que, il était juste pas au courant de tout. Je ne me rendais pas compte qu'en fait, c'était sur tous les sujets. Qu'il agissait de la même façon.
D'accord. Alors en février 2020, vous ouvrez une chaîne YouTube, une chaîne YouTube qui s'appelle L'Extracteur et qui a pour objectif de décrypter, de critiquer aussi assez frontalement les vidéos d'un YouTuber qui est devenu très proche de Dieudonné d'ailleurs, qui s'appelle Thierry Casasnovas. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? Quel est le sens de la démarche en fait?
Alors, déjà, je précise que je suis pas le seul à ouvrir cette chaîne YouTube puisque je fais partie d'un collectif en fait on est plusieurs à travailler sur ce sujet-là. Alors notre chaîne YouTube pour l'instant on a fait des vidéos sur Thierry Casasnovas elle se comment dire son objectif c'est vraiment d'alerter sur ces dérives des promesses des fausses promesses de santé de tout ce qui tourne autour de ces médecines alternatives qui peuvent poser de sérieux problèmes de santé publique. Pour l'instant, on se concentre sur le cas Casasnovas parce que c'est lui qui prend le plus la lumière et qui a le plus grand nombre d'abonnés, hein, je veux dire un 500 000 d'abonnés sur YouTube, c'est lui la caisse de résonance de ce genre de dérive-là. Mais voilà, c'est pas une guerre personnelle et on s'en prendra d'autres, comment on les appelle, dérapeutes dans quelques temps. Mais qu'est-ce qui m'amène à ça, en fait, c'est la fin de mon parcours. Donc je sors d'égalité réconciliation, je me fâche avec Zéon, avec Soral, avec son entourage sur on en parlera après sur le déclic qui m'a conduit là, mais je me fâche avec tout ça, je me rapproche donc plutôt des idées on va dire d'Étienne Chouard, je me rapproche plutôt de cette sphère-là, et puis en même temps je m'engage dans la cause animale, je m'intéresse à un tas de choses, au bio, au véganisme, au crudivorisme, etc. Et je tombe du coup sur les vidéos de Thierry Casasnovas. J'ai une espèce de curiosité un peu malsaine par rapport à ce qu'il est, ce qu'il dit. Je l'écoute, mais en même temps, je me dis, mais le gars se permet de donner des conseils santé alors qu'il pèse 30 kilos. Il n'a pas vraiment l'air d'être en très bonne santé. Donc, je l'écoute, je suis un peu, ouais. J'essaye d'appliquer certains trucs, mais en même temps, je me dis, c'est bizarre et tout ça. Donc, je suis séduit par ça, alors que, pour le coup, là, j'ai terminé ma formation à l'université, que je suis agrégé de biologie à ce moment-là. Donc, logiquement, je devrais avoir tous mes voyants qui s'allument. Et pour le coup, non. Pour le coup, le fait qu'il utilise des mots, du vocabulaire très spécifique qui le repompe à droite à gauche, en fait, fait tomber certaines barrières chez moi, m'imprime bien parce que c'est des choses que j'ai vues parfois en cours et autres, et du coup, je me laisse séduire. Et là-dessus, je veux vraiment alerter. C'est pas. Comment dire, il va pas toucher que des personnes qui ont un très faible niveau d'études, des personnes qui sont en détresse ou autre. Non, il peut vraiment. Son discours ici est tellement séduisant et sa manière de présenter les choses est si bien rodée, surtout maintenant qu'il est conseillé par pas mal d'agents en communication et autres, que ça peut toucher absolument tout le monde. Et je tiens à le dire, j'ai été le premier à me laisser séduire par ce discours, pas longtemps et pas totalement, mais voilà. Donc c'est pour vraiment dire que ça peut faire des ravages même partout, quoi, dans tous les milieux. D'accord. Et du coup, je m'intéresse à ça, je décrypte petit à petit, je comprends que c'est une supercherie, que il fait beaucoup de mal finalement parce qu'à ce moment-là, il critique la consommation de viande. Donc moi, qui suis impliqué dans la cause animale, je m'oppose à lui. Je me dis, mais attends, mais pourquoi ce mec-là finalement vient salir notre combat pour les animaux, etc. Et du coup, je commence à décrypter son discours. Je m'intéresse aux conséquences que ça peut avoir sur les gens, à des victimes aussi qui me contactent. Et là, je me dis, mais attends, là, il faut faire quelque chose. Du coup, je me rapproche de ce collectif avec lequel on fonde l'extracteur. Et on commence en effet à produire des vidéos, des articles pour alerter, mettre en garde et surtout décrypter un petit peu son discours. Ouais.
Vous parliez à l'instant d'un déclic. Rétrospectivement, vous sauriez dater le moment qui a commencé à vous faire décrocher de cette mouvance ?
Je crois que c'est à mon avis, c'est en 2014. Donc à ce moment-là, je fais toujours bénévolement, je fais les titres, les pancartes, vous savez, pendant les vidéos de Soral, là, pendant ces vidéos sur son canapé rouge, il y a, entre chaque chapitre, il y a une espèce d'écran titre qui va présenter ce que Soral va dire, et donc je fais ça, je les fais pas toutes, mais j'en fais une partie, on me commande les titres et je les fais, et donc du coup j'ai un peu accès aux sujets qui sont traités, j'ai accès pas aux vidéos, parce qu'on ne les envoie pas avant, mais voilà, je regarde du coup les vidéos pour voir mes titres apparaître.
Juste, est-ce que vous l'avez rencontré, Soral ?
Alors je l'ai croisé une fois à une séance de dédicace au théâtre de la Main d'Or.
D'accord.
Voilà.
Le courant est passé ou
pas tellement. Pas tellement. Il m'a paru assez. Bon, je sais pas. Je sais pas si on peut prêter beaucoup d'importance aux sensations qu'on a quand on rencontre une personne, mais c'est comme vous dites, le courant non n'est pas spécialement passé. Il avait l'air assez distant, assez froid. Il y avait des gardes du corps autour de lui. Il avait pas l'air très très jovial ou sympathique. Et non, j'ai pas échangé avec lui. Mais voilà, j'ai été dans la même pièce que lui pendant un petit moment.
D'accord.
Et donc en 2014, je crois, dans une vidéo, à ce moment-là, il fait des lives. et dans une vidéo live où du coup il se lâche beaucoup plus. Après, vous savez, dans le montage, il venait rajouter des bips ou des trucs comme ça à chaque fois qu'il y avait le mot juif ou le mot voilà, pour essayer de pas se faire striker. Mais en live, il se lâchait énormément. Et dans une vidéo, il parle d'un. Que je confonde plus, je crois qu'il y a une interview de Poutine par El Kabach ou quelque chose comme ça. Et en fait, il décrypte ça, il le dit lui-même, il va faire une analyse racialo-communautaire. Il dit qu'on a vu le petit El Kabach se soumettre, donc le petit sémite El Kabach se soumettre face à l'arien, enfin qui est slave, Poutine. Et il précise que c'est ça la juste hiérarchie et la bonne manière dont on doit fonctionner le monde.
Mais ce que je retiens, moi, de positif, c'est qu'El Kabach s'est extasié dans le fait que Poutine n'a pas demandé les questions préalablement. Poutine, il fait comme Soral. Il arrive et il répond du tac au tac. Et il a dit que Poutine devrait servir d'exemple à certains leaders politiques français qui demandent à ce qu'on leur prémâche entièrement le travail et qui empêchent tout exercice de la démocratie médiatique. Et puis on a vu aussi le petit El Kabach. Là, c'est mon analyse un peu plus racialo-communautaire, qui est finalement le petit sémite séfarade, se soumettre finalement comme une femme à quelqu'un qui représente encore, je dirais, la virilité arienne, d'une certaine manière, même si elle est slave, vous voyez. Et ça, c'est la juste hiérarchie traditionnelle, vous voyez. Hein, quand Poutine ouvre sa gueule, un El Kabach la ferme. Et c'est comme ça que se conçoit un monde qui fonctionne bien. Parce qu'il y en a un qui incarne l'autorité légitime et la virilité, et l'autre qui incarne ce qui devrait la place qu'il aurait dû garder depuis toujours, c'est-à-dire une place d'intermédiaire et de courtisan, et au mieux de diplomate, hein, comme du temps où la France était la France, hein, pour ceux qui comprennent bien de quoi je veux parler. Voilà, donc.
Voilà, et quand j'entends ça, en fait, je suis soufflé, quoi. Sur le coup, je me dis, mais. En fait, tout ce qu'on m'avait dit, tout ce que j'avais pu lire à droite à gauche était peut-être vrai, peut-être qu'en fait, c'est pas du tout un simple résistant face à l'Empire, voyez, au complot et à la manipulation du pouvoir. En fait, c'est peut-être vraiment un nazi, peut-être qu'il croit vraiment à la hiérarchie des races, que les Aryens...
Il s'en est jamais vraiment caché. Je veux dire, il expliquait dès 2013 qu'il se définissait lui-même comme national-socialiste français, pour reprendre exactement ses mots.
C'est vrai,
ça mérite d'être explicite en tout cas.
Oui, pour le coup, je l'avais vu, il me semble, la vidéo où il disait qu'il était national-socialiste. Je veux pas du tout me dédouaner ou je comprends même pas encore comment mon cerveau fonctionnait à ce moment-là. Mais pour le coup, je pensais l'avoir compris et je pensais, vous voyez, le côté gauche du travail, droite des valeurs, je sais pas, j'ai trouvé un sens qui, à mon avis, n'existe pas. Mais je le voyais. Enfin, comment dire. C'est dingue, hein, parce que pour les gens, voilà, national-socialiste, c'est évidemment nazi. Mais à ce moment-là, je me dis, ah oui, d'accord. Bah, en fait, il veut juste défendre un petit peu la classe ouvrière, les opprimés, tout ça. Et d'un autre côté, bon, il a des idées qui sont pas les miennes sociétales, qui sont plutôt anti-avortement, anti tout ça. Ça, je l'ai jamais rejoint là-dessus. Mais je me suis dit, bon, ok, c'est ça. J'avais pas fait le lien, si vous voulez, avec la hiérarchie des races. Pour moi, j'en étais loin à ce moment-là. J'étais vraiment sous...
En fait, ce que vous décrivez, c'est un mécanisme de déni.
Ouais, peut-être.
Enfin, ça ressemble à ça, en tout cas.
Ouais, c'est vrai. C'est... Sur le moment, je suis sous cette... Je sais pas, c'est cette argumentation, enfin c'est pas une argumentation, mais cette espèce de manipulation qu'il fait avec les mots et les concepts pour réussir à se jouer un peu de notre vigilance, pour moi ça passe à ce moment-là, et je le considère pas comme un nazi. Et encore une fois, pendant toute cette période où je peux faire des dessins et tout ça, si j'avais su que, je pense que j'aurais pris mes distances plus tôt. Et à ce moment-là, le fait qu'il se déclare comme national-socialiste français... Je l'ai pris comme voilà un engagement politique, mais qui était totalement détaché du parti nazi et du génocide. Mais par contre, en 2014, quand il, alors peut-être c'est idiot, hein, c'est en fonction de chacun le déclic émotionnel, en fonction des mots choisis va être différent. Mais moi, là, c'est sur ces mots-là, quand il parle de cette juste hiérarchie, là, je me dis mais ça, j'arrive pas à le défendre. Vous voyez, j'arrive pas. À soit le prendre au second degré, soit essayer de, comme vous disiez, de déni ou d'argumenter derrière en disant mais qu'est-ce qu'il a voulu dire exactement ? Est-ce que ce serait pas... Non, là j'y arrive pas, c'est brut, c'est... Ok, bah en fait, il est racialiste, quoi. Ils pensent que les Aryens sont supérieurs aux Sémites, et enfin, j'ai emploi son vocabulaire, hein, et je me dis, ben waouh! Et donc ça trotte dans ma tête, j'en parle autour de moi, j'en parle à ma compagne, je me dis, mais tu te rends compte, il a dit ça, tu vois ce que ça veut dire, comment c'est possible? Donc j'essaye d'avoir un petit peu des réponses là-dessus. Personne ne me dit rien autour de lui, dans son entourage, j'ai pas vraiment d'explication, de texte, et il n'y a pas de retour arrière, il n'y a pas d'excuses qui sont prononcées là-dessus, comme si de rien n'était, ça passe. Et donc là, à partir de là, bah, je m'éloigne de tout ça, j'arrête de faire les écrans-titres, je continue à faire des dessins, mais un peu plus que Dieudo, et puis après, comme je vous dis, sur d'autres engagements. Et puis après, je publierai aussi un dessin pour marquer mes distances avec Dieudonné et Sora, je crois que c'est en 2015, quelque chose comme ça.
Alors maintenant que vous êtes enseignant, si vous aviez un message à faire passer à ceux qui pourraient aussi être pris dans les raies de cette séduction, cette fascination par rapport aux thématiques anti-système, complotistes, etc. Qu'est-ce que vous leur diriez, notamment aux jeunes?
Alors déjà, si des personnes qui sont encore là-dedans et je pense dans cette, je pense qu'on peut parler un peu d'endoctrinement ou d'emprise mentale, je sais très bien qu'ils vont penser que je suis un retourné, un vendu, un traître ou je ne sais quoi, que j'ai fait, vous savez, leur mot là qui revient souvent, on m'a accusé de ça sur Twitter, que j'ai fait teshuva, etc. C'est toute cette rhétorique qui est liée encore une fois à l'antisémitisme. Mais donc je pense que voilà, ma parole aura peut-être peu de poids pour ces gens-là. Et pourtant, je ne suis pas un agent du Mossad. J'ai été retourné par personne et personne ne me paye pour dire ça. J'en suis juste arrivé là dans ma vie en me disant que j'avais fait ces erreurs-là, que le mieux c'était de les assumer pour que ça puisse peut-être servir de témoignage. Et quand on y est, je pense qu'il y a plein de déclics possibles, mais que c'est très difficile d'avoir une recette gagnante, un mode d'emploi pour se dire, ben voilà, si je dis ça, c'est forcément les mots qui vont imprimer auprès des jeunes qui croient à ces choses-là. Non, pour certains, ça va être comme pour moi, une phrase de trop, quelque chose qui va faire prendre conscience que en fait, c'est pas vraiment ce qu'on croyait, on n'y était pas là pour les bonnes raisons. Pour d'autres, ça va être, je sais pas, un fait divers, ça va être être confronté à faire une rencontre, être confronté à quelqu'un d'une autre confession, etc. Ou peut-être par là où j'ai un vrai doute, c'est sur les arguments rationnels, sur les, vous voyez, essayer d'apporter des arguments, des faits à ces gens-là. Au moment où moi j'y étais, en tout cas, où j'étais jusqu'au cou là-dedans, pour moi, ça avait aucune valeur. C'est terrible, mais pour moi, soit c'était des faits qui étaient manipulés, soit ça venait de sources qui étaient corrompues, soit c'était des mensonges, soit c'était qu'une
Il y
partie de
avait
la
une barrière
réalité.
mentale, quoi, qui empêchait tout
Ouais,
ça de passer, quoi.
c'est ça, exactement. Alors, peut-être que pour d'autres, ça peut avoir son intérêt. Je pense qu'il faut de toute façon essayer toutes les. C'est trop grave, je veux dire, d'avoir autant de jeunes qui sont dans ces croyances-là, dans ces théories-là. Il faut tout essayer pour essayer de les en sortir. Mais je leur dirais d'essayer de. Comment dire? De toujours réfléchir à ce qu'ils sont en train de faire, à ce qu'ils pensent faire. Et à ce qu'ils font réellement. C'est-à-dire que moi, quand je faisais ces dessins-là, je pensais vraiment agir pour le bien, agir pour, je sais pas, pour une meilleure information, pour une liberté d'expression, etc. Et en fait, je me rends compte que ce que je faisais servait à un discours antisémite, négationniste, et tout ce que vous voulez, et raciste, et autres. Et je pense qu'à ce moment-là, si j'avais eu quelqu'un qui était venu un peu me prendre par la main, j'étais très manipulable, comme je vous le disais, j'avais pas vraiment d'avis sur quoi que ce soit. J'étais un peu, voilà, je buvais les paroles de certains. Si quelqu'un était venu peut-être me prendre par la main, me parler en privé, me dire, attends, mais est-ce que tu sais vraiment tout ça? Mais pas de manière frontale, hein, de manière voilà, fraternelle, m'accompagner, me dire, mais attends, ces personnes-là, voilà ce qu'elles ont dit et tout ça. Voilà ce qu'elles font, voilà vraiment à quoi ça sert, voilà l'argent, où il va, à quoi il sert, voilà leurs connaissances, leur réseau. Peut-être que ça aurait imprimé. C'est peut-être refaire l'histoire et peut-être que ça aurait pu imprimer. Ouais.
Bon, bah écoutez, merci beaucoup Clément pour ce témoignage de presque 1 heure. Merci, bonne continuation, notamment pour vos vidéos critiques sur Thierry Casasnovas et d'autres. Et encore une fois, merci pour ce témoignage. Voilà.
Ben, il n'y a pas de quoi. Merci à vous de m'avoir donné la parole. Si ça peut être utile, j'espère que. Enfin, c'est tant mieux. Je tiens juste à, voilà, à rappeler que j'ai pas du tout pour but là de me faire passer ni pour un héros, ni pour une victime ou quoi que ce soit. On m'a jamais forcé à dessiner. Je pense que j'étais conscient et que j'étais acteur de mes propres choix. Et c'est pas héroïque de revenir là-dessus. Je pense que c'est ce que je dois au minimum aux personnes que j'ai pu blesser et autres par mes dessins. Donc c'est une sorte de, voilà, de. Si je peux accéder comme ça, un peu une sorte de rédemption pour tout ce que j'ai fait, ben, écoutez, tant mieux. Et puis, si ça peut être utile, eh ben, c'est encore mieux pour moi.
Bon, vous avez lâché le mot rédemption. Donc merci en tout cas pour votre sincérité, votre transparence aussi. C'est pas forcément facile de revenir sur ce genre de choses. Et voilà, encore une fois, bonne continuation.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous.
Merci.
C'était un podcast de Conspiracy Watch. Une interview réalisée le 10 juillet 2020, des propos recueillis par Rudi Reichstadt, montage Margot Vinel.